Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h.
Pourquoi venez-vous au club ?
C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Mmh. Et puis, de très bons amis à nous, ils sont allés, on s'est venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas.
Quand j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme.
Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, des colliers de fleurs et des gentils organisateurs. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le Club Méditerranée, Club Med pour les intimes et pour les autres. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, une joyeuse bande de copains rêve de soleil, de plongée sous-marine et de dépaysement. Ils imaginent alors un genre de vacances sans précédent, les clubs. Une utopie qui deviendra bientôt une véritable épopée industrielle et un succès qui relève du phénomène de société. Corfou, Tahiti, Djerba, Tchefalou, ces séjours organisés, tout compris, divisent les vacanciers, mais ils disent aussi beaucoup de la société française, de son rapport au tourisme, au voyage, au temps libre, à l'altérité également. Retracer l'histoire du Club Med, c'est donc traverser les Trente Glorieuses, le développement des loisirs et l'évolution des mœurs en France. Notre invité aujourd'hui, Jean Yard, sociologue, directeur de recherche au CNRS, il est spécialiste des vacances. Sur ce sujet, il a notamment écrit « Le triomphe d'une utopie, la révolution des temps libres », publié aux éditions de l'Aube en 2015. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillère, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Été 1936, 600 000 Français profitent de la loi votée en juin pour partir en vacances. Un chiffre encore modeste, car malgré les deux semaines de congés payés et les billets de train à prix spéciaux que le gouvernement du Front Populaire offre aux travailleurs, les Français n'ont pas tous le réflexe ni la possibilité de s'offrir des vacances. Où partir quand on n'a ni maison de famille, ni les moyens de s'offrir un hôtel ? Pique-nique au bord de la rivière ? Balade à vélo ? Guinguette ? Lentement, les Français font l'apprentissage des loisirs et des vacances, souvent près de chez eux. C'est dans ce contexte que le ministre des Loisirs, Léo Lagrange, grand promoteur du sport, va fonder la première auberge de jeunesse à Paris en 1937.
J'espère que nous pourrons ainsi bientôt, à travers notre pays, avoir des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes gens qui, sac au dos, sur les routes, sur les canaux, sur les rivières, parcourront la France, apprendront ainsi à la connaître dans sa réalité et à l'aimer. Et j'espère que dans notre auberge de Paris, viendront ces jeunes paysans qui ne quittent hélas jamais leur village et qui viendront dans l'auberge de Paris retrouver leurs jeunes camarades.
À destination des jeunes, de tous les jeunes, les auberges proposent des activités sportives et des camps de vacances. Un mouvement laïque, anticonformiste, qui vient contrebalancer l'influence des patronages genre club sportif catholique ou colonie de vacances communiste. Jusque dans les années 30, les loisirs sont bien souvent encadrés par des structures religieuses ou politiques. Les auberges de jeunesse, elles, promeuvent l'indépendance des jeunes par rapport aux adultes et aux idéologies, et elles développent une vision hédoniste des loisirs. Au Faucon Rouge, camp d'été socialiste, le chant, par exemple, a une fonction éducative, alors que dans les auberges de jeunesse, chanter pendant les veillées, c'est juste s'amuser. Un modèle d'épicurisme qui va inspirer d'autres initiatives privées comme celle de l'Ours Blanc, un club de natation de Russes blancs immigrés en France. En Corse, l'ours blanc organise des vacances d'un genre nouveau, une sorte de colonie pour jeunes adultes en quête de plaisir. Dimitri Filipov, champion de natation et de water-polo, journaliste à François, installe un campement rudimentaire sur une plage de Calvi. Pendant 2 semaines, on se baigne, on joue au volet, on fait des feux en pleine nature, dans un esprit de camaraderie qui efface les clivages sociaux. Tout le monde se tutoie, filles et garçons, femmes et hommes mélangés. Congé payé, week-end à la mer, auberge de jeunesse, camp d'été. Les Français font donc leur premier pas sur la route des vacances et ils s'en donnent à cœur joie. Et si elle suspend tragiquement cette initiation au plaisir, la Seconde Guerre mondiale ne l'interrompt pas. Au contraire, à la libération plus que jamais, la France veut s'amuser, s'évader. Et pendant que l'État français réfléchit à ce qu'on appelle le tourisme social, à savoir faciliter l'accès des classes moyennes et populaires aux vacances, des particuliers vont prendre des initiatives qui feront mouche. Dimitri Filipov, des ours blancs, va poursuivre ses expériences d'avant-guerre. En 1948, il crée le Club Olympique, un village de vacances avec des tentes, un bar, une piste de danse, une formule, tout compris. Des vedettes de son entourage se laissent séduire, comme Jean Marais, Jean Cocteau. Au menu, fêtes, sport et nature, le combo parfait pour oublier les privations de la guerre. Dans le sillage de Dimitri Filipov, d'autres clubs vont voir le jour, comme les Villages Magiques, créés par les fondateurs d'un nouveau magazine féminin, Elle, à destination de ses lectrices. Tout un réseau de jeunes bourgeois, de journalistes, de célébrités en profitent avec insouciance. Parmi eux, un certain Gérard Blitz, qui passe l'été 49 au club olympique de Dimitri Filipov à Calvi. Convaincu par ce qu'il y trouve, sport, convivialité, mixité, il va se mettre en tête de créer sa propre structure. Il cherche un nom, oui, un nom qui sente le sable chaud et le dépaysement. Ce sera le Club Méditerranée, simple comme bonjour. La notion de club d'abord, et puis cette mer qu'on associe aux rêves, au soleil, au paysage paradisiaque, la Méditerranée. Gérard Blitz ne le sait pas encore, mais il va bouleverser l'image que les Français se font des vacances. 1950. La France vient d'abandonner les derniers tickets de rationnement. Le gouvernement Bidault instaure un salaire minimum et Louis Armstrong chante « C'est si bon ». Ouais, c'est si bon la paix, les libertés retrouvées, mais aussi la société de consommation, la télévision, les voitures. Le 27 avril 1950, Gérard Blitz fonde le Club Méditerranée sous la forme d'une association loi 1901. Fils d'un diamantaire flamand d'Anvers, Blitz a été élevé dans le culte du sport, façon Pierre de Coubertin. Loyauté et camaraderie sont les maîtres mots de celui qui se veut ainsi saint d'esprit et de corps. Champion de water-polo en Belgique, mais surtout médaillé de la résistance, Gérard Blitz se voit confier une mission à la libération. C'est cette expérience de la vie en communauté que raconte le sociologue Jean-Didier Urbain sur France Inter.
L'idée même du concept de Club Méditerranée est venue à Gérard Blitz sur la base de l'expérience suivante. Gérard Blitz, qui était un Belge, a eu pour mission, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, confiée par le gouvernement belge, de réinsérer les anciens concentrationnaires dans la société belge. Et pour faire ça, il a réquisitionné en Savoie un hôtel où il réapprenait aux concentrationnaires les relations de sociabilité. Et il a élaboré le concept de Club Méditerranée sur cette base, c'est-à-dire comme une sorte de sas entre les individus, je dirais, socialement désintégrés et à la recherche d'une réintégration.
L'ambition de Gérard Blitz pour son Club Méditerranée est tout d'abord idéaliste et désintéressé. Issu d'une famille aisée, détachée des nécessités matérielles, il ne cherche pas un rendement économique immédiat, non. Et si ses goûts sont simples, sans luxe ni excès, il ne souhaite pas pour autant faire du tourisme social. Son objectif est bien de proposer à d'autres les vacances qu'il affectionne lui-même. Autrement dit, la vie en plein air, le sport, le dépaysement, tout cela accessible à ceux qui le souhaitent et qui lui ressemblent. Club Méditerranée prévoit son premier voyage le 1er juillet 1950, soit 2 mois après la création de l'association. Pour Gérard Blitz, tout est à créer. Fort des contacts qu'il possède dans plusieurs réseaux, journalistes de l'équipe, anciens résistants, champions de natation, intellectuels, il organise 4 séjours de 2 semaines chacun. Destination Alcudia, un village de pêcheurs au nord-est de l'île de Majorque, en Espagne. Pour 16 800 francs les 15 jours, ce qui correspondait au SMIC de l'époque, Gérard Blitz propose, Dixit le tract qu'il fait imprimer.
Une formule de vacances neuve et sympathique. Un village de toile confortable. Les plus beaux sites de la Méditerranée. Un personnel nombreux et dévoué. Tous les sports méditerranéens. Voyage rapide et confortable. Distraction de qualité.
Village de toile, dit cette publicité en couleur ornée d'un pin parasol. De toile, oui, c'est-à-dire de tente. Le créateur du Club Med s'est approvisionné dans un surplus américain où il a déniché des guitounes en mauvais état et des lits de camp un peu branlants. À ses débuts, le Club Med ressemble davantage à un cantonnement militaire qu'à un village de vacances. Mais le pari de Gérard Blitz paye. Exotisme, aventure, nouveauté, le Club Méditerranée ne ressemble en rien de connu en France et les inscriptions ne se font pas attendre. Des étudiants et de jeunes actifs, issus de milieux plutôt privilégiés, se laissent séduire par ces vacances à la dure mais au soleil. Un public urbain, progressiste, en rupture avec les valeurs de la bourgeoisie traditionnelle, les hôtels de papa et les vacances guindes, dévoile là la clientèle du Club Med. En tout, à l'été 1950, 2400 personnes s'y inscrivent. Le voyage se déroule en train, sans couchette, puis en bateau depuis Barcelone. Une véritable aventure pour des Français qui n'ont pas encore l'habitude de voyager. Et un confort relatif. 200 tentes pour 700 vacanciers, pas grand-chose d'autre que le soleil et le vent, le sable et la mer. Il y a 12 paires de palmes pour tout le monde, pas plus. Un bateau pas très fiable. Et pourtant, c'est un succès, un éden même pour ces premiers vacanciers. Les autorités franquistes puritaines sont furieuses de voir ces corps dénudés s'exhiber sur les plages Alcudia. Mais au club, on se réjouit de cette expérience ludique, décomplexée et presque transgressive. La vie en commun s'organise autour des repas, des baignades, des spectacles qu'on organise tous ensemble, et plus si affinité. Un peu colonie de vacances, un peu kibbutz, la formule du village club, inédite à cette échelle, convainc immédiatement. À l'issue du séjour, l'athlète et journaliste Marcel Ancène écrit dans l'équipe
« Partir, tout quitter, ranger les souliers cirés et les cols glacés, ne plus ouvrir un journal, ne plus écouter la radio, dire adieu aux pesantes conventions, tout laisser et devenir un autre, pendant 2 semaines, loin des autres et près de ceux qui ont aussi senti l'irrésistible envie d'un doux exil, d'une profonde bouffée d'air. Aujourd'hui, presque 3 mois ont passé, depuis l'arrivée des premiers membres du Club Méditerranée devant la baie d'Alcudia. Il va bientôt falloir parler de ses premières vacances au Baléares comme d'un souvenir, non sans nostalgie. Mais il en restera une chose très importante. Le Club Méditerranée est né et sa vie sera longue.
Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer au voisin.
1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi?
Son petit titsy titsy titi winnie, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un titsy titsy titi winnie, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à poids.
1, 2, 3, voilà ce qui arriva.
Elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins.
1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi?
Son petit titi 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 winnie, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un titi 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 winnie, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois.
1, 2, 3, voilà ce qui arriva.
Elle doit maintenant s'élancer hors de l'onde,
elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler.
Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi?
Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à pipas.
En 1956, la France pacifiée des gouvernements Edgar Faure et Guy Mollet va bien, en tout cas sur le terrain économique. Le revenu des familles a triplé depuis 1948, les congés payés passent de 2 à 3 semaines et le chômage, eh bien il n'y en a pas. Gérard Blitz, le fondateur du Club Méditerranée, connaît quant à lui un succès grandissant. Il a fusionné avec les villages magiques du magazine Elle, il s'est associé avec Gilbert Trigano, un vendeur de tentes, auprès duquel il s'était endetté. Gérard Blitz, assez mauvais gestionnaire, l'a compris. Sa petite association ne suffira pas à soutenir le flot constant des vacanciers et les dépenses considérables qu'il requiert. Fini les travailleurs bénévoles, la vie à crédit et l'insouciance des débuts, le Club Méditerranée devient une société anonyme à capital variable et Gilbert Trigano, son PDG. Le Club Med, désormais, ce n'est plus Alcudia, mais Corfou, en Grèce, Cefalou, en Sicile, Djerba, en Tunisie ou encore Lézine, en Suisse. Une dizaine de villages, des séjours longs, jamais moins de 2 semaines, et à chaque fois la même formule. Des sports nautiques, rares à l'époque, des sites géographiques d'exception, et une formule tout compris. Seules les consommations en bar sont payantes grâce à un système de collier boule mis en place en 1957. Les GM, les gentils membres, comme on les appelle, se déplacent donc en maillot de bain et sans un sou. Et, bien sûr, tout le monde se tutoie, clients et employés, gentils membres et gentils organisateurs.
Je suis le chef de village à bord de ce bateau et je m'appelle René. Donc, je vous demanderai de bien vouloir m'appeler par mon prénom, de ne pas m'appeler monsieur le directeur, boss, chief, patron. J'aime autant que vous m'appeliez par mon prénom. Je m'appelle René. Ensuite, un truc dont je suis d'ailleurs l'inventeur et qui jusque-là ne marche pas trop mal. Si vous êtes satisfait de vos vacances, je vous conseillerais de me tutoyer. Si vous êtes mécontent, eh bien, vous voyez, c'est très intéressant pour moi et pour mes statistiques.
Le plaisir, c'est d'être en liberté, de vivre tranquillement et de passer des vacances agréables sans trop de formalités.
Et le tutoiement, qu'est-ce que vous en pensez?
Tutoiement, ça va. Oui. Si, c'est un peu inhabituel, mais enfin, on s'y fait très facilement et très bien.
Vous tutoyez facilement?
Oui. Vous-même, vous tutoyez.
Pratique les formules tout compris, mais idéologique aussi. Éviter la circulation de l'argent, se tutoyer, c'est une façon de gommer les différences sociales. Gilbert Trigano, l'associé de Gérard Blitz, est un ancien du Parti communiste français. S'il n'est plus militant, certes, il tient à rompre avec le cloisonnement social propre aux vacances. Et dans cette logique, pas question non plus de porter une cravate. Dans les villages du Club Méditerranée, on laisse son métier, son appartenance sociale à l'entrée, ce qui à l'époque est révolutionnaire, comme l'explique Gilbert Trigano, co-dirigeant à l'époque du club.
Il y a une anecdote qui a déjà été citée et dont on croit que c'est une boutade. Elle est vraie et elle est vraie tous les jours, elle est vraie en ce moment pendant que nous parlons. Mais la plus récente que je connaisse, c'est deux hommes qui ne se connaissaient pas et qui ne se sont connus durant toutes leurs vacances que par leur prénom et qui ont sympathisé et qui ont fait de la voile ensemble et... Comme ils se complétaient bien, ils ont d'ailleurs gagné plusieurs régates ensemble. Puis au moment de se quitter, à la fin des vacances, ils se sont présentés parce qu'ils voulaient se revoir. Eh bien, l'un était un patron très important et l'autre était un de ses tout petits collaborateurs, tellement petits d'ailleurs, qu'ils ne se connaissaient pas dans le cadre de l'entreprise. Je ne sais pas du tout, pour être honnête, qu'est-ce qui s'est passé après dans la vie? Est-ce que ce patron a fait une promotion à son collègue ou est-ce qu'il a partagé son poste de responsabilité avec lui? Ça, non, j'en sais rien du tout. Mais je sais qu'à ce moment-là, ils étaient deux hommes identiques et semblables, réunis dans le même plaisir différent de l'agressivité quotidienne. Peut-être ils se sont mis en grève, après ils se sont battus.
En 1955, Gérard Blitz, un peu aventurier, s'exporte à l'autre bout de la planète, à Tahiti, plus précisément, où il ouvre un nouveau village. Le séjour qu'il propose dure 4 mois, dont 2 de voyage en bateau, payable à crédit en 18 mois. La Polynésie accueille ses premiers touristes et ce n'est que le début. C'est à cette époque qu'en effet connaissent les rituels emblématiques du Club Med. Claudine Blitz, la femme du patron, a vécu 10 ans à Tahiti et c'est elle qui va développer l'imaginaire polynésien lié au club. Les cases inspirées des farets tahitiens qui remplacent les tentes mais aussi les colliers de fleurs et les paréos. À Corfou, comme à Djerba, le Club Med s'est pas pété. L'imaginaire lié aux vacances s'uniformise autour de nouveaux critères tandis que la planète Terre commence à rétrécir. À écouter les dirigeants du Club Med, Nice sera bientôt la banlieue de Paris et Tahiti le nouveau Deauville.
Je crois qu'il faut dire aussi que cet effort que nous faisons pour amener dans le Pacifique un courant de tourisme français, ce qui semble extraordinaire maintenant, nous croyons qu'avec le développement, avec la technicité accrue de l'aviation civile, nous croyons qu'en 4 ou 5 ans, cette chose-là sera, pour ne pas dire banale, sera quand même beaucoup plus accessible, que Tahiti sera à peine à 8 heures de Paris et sera un terrain de vacances, si l'on peut dire, extrêmement possible.
Là vous faites une anticipation du moment où
les avions voleront
à 2500.
Oui, la Méditerranée sera la vallée de Chevreuse.
Vous offrez le week-end à Tahiti.
Et le week-end à Tahiti, ouais, certainement pas, mais enfin, à 3000 km à l'heure, je pense que ça peut être prévu pendant 4, 5 ans, oui. Tahiti sera à 8 heures de Paris, ce sera une chose banale finalement.
Buffet à volonté, petit déjeuner pharaonique, activité à gogo, le Club Méditerranée devient l'incarnation des Trente Glorieuses et de la société de consommation qui se met en place. En 1950, 2400 personnes passent leurs vacances dans les villages du club. En 1957, 7 ans après, c'est pas énorme, ils sont 22 000. Rapidement, le modèle inventé par Gérard Blitz et Gilbert Trigano va faire des émules. Les opérateurs touristiques l'ont compris, ça y est, les Français sont des vacanciers en puissance. Les collectivités territoriales, elles-mêmes, s'inspirent de l'utopie conviviale du Club Med avec les villages, vacances, familles, les VVF. Créée en 1958, cette association, financée notamment par les maires de France et le ministère du Tourisme, propose des séjours à la façon du Club Med à moindre prix. Pas de case tahitienne ou VVF, mais une même envie, cela coulait douce et de penser à rien. D'ailleurs, ce couple que vous allez entendre se souvient, la formule club et notamment la prise en charge des enfants, ça a libéré madame.
Moi, je préfère organiser mes vacances. Moi, je leur dis, ils m'organisent toute l'année. Moi, le club les organise pour moi. Je préfère le club. Et j'ai tout sur place en activité sportive.
Et pour une femme, quelle différence y a-t-il entre les vacances dans un club et les vacances ailleurs, en France?
Il y en a pas mal.
Oui, ça... Les meilleures vacances que j'ai passées, moi, c'est dans un club.
Et pourquoi?
Parce que je ne fais rien.
On peut dire
que
c'est une question de paresse.
Avec un enfant ou pas, je suis en vacances. Je ne fais rien. Il n'y a pas de ménage, pas de manger, pas de course à faire.
...1969, l'ère du tourisme de masse commence, favorisée par une hausse sans précédent des salaires et le passage aux 4 semaines de congés payés. Désormais, les agences de tourisme proposent toutes les formules all included. En Grèce, en Tunisie, en Andalousie ou en Sicile, ça marche. L'hôtellerie, elle-même, ajuste ses prestations. Elle s'organise en chaîne à l'américaine et installe ses infrastructures à proximité de celles du club méditerranéen. En une décennie, l'île tunisienne de Djerba ou la ville d'Agadir au Maroc deviennent des centres touristiques majeurs.
1960, tremblement de terre à Agadir. La ville est rasée. Le roi Hassan II veut la reconstruire. Un homme répond présent avant les autres, Gilbert Trigano. Souvenir de la vieille ville, ses inscriptions sur la colline. Le club sera la première construction de la nouvelle ville. Depuis, il a été largement copié et aujourd'hui, il est cerné par la concurrence. Si l'on déroule les tapis d'honneur quand Trigano arrive, c'est parce qu'il est toujours considéré comme le prince charmant de l'économie marocaine.
Le tourisme marocain existe pour le plus grand nombre aujourd'hui grâce à Gilbert Trigano qui, il y a 33 ans, a découvert ce pays, y a cru, au moment où les autres regardaient ça, je dirais, soit avec indifférence, soit vraiment avec l'œil de celui qui viendra au Maroc dans un 5 étoiles, passer 48 heures, 3 jours et oublier. Lui a amené au Maroc plusieurs millions, peut-être dizaines de millions de touristes sur la distance. Et c'est formidable.
Gilbert Tigat, Trigano, se targue d'avoir créé un laboratoire des vacances. C'est vrai d'ailleurs, le club Méditerranée crée des destinations nouvelles, Agadir, Djerba, mais aussi Tahiti. Il ne cesse également d'innover pour contrer la concurrence. Bungalows, excursions, croisières, club med affaires, golf. Le club se développe beaucoup et dépense tout autant. Trop même. Entrée en bourse en 1963, l'entreprise qui pâtit de problèmes de gestion frôle la faillite avant qu'Edmond de Rothschild et Gianni Agnelli, le patron de la Fiat, en deviennent les actionnaires principaux. Le club est désormais une multinationale et il connaît un âge d'or. Avec 250 000 adhérents en 1970, c'est le premier club de vacances français. À tel point que l'humoriste Guy Bedos s'amuse dans un sketch. Bientôt, la Lune, ce sera comme l'Espagne. Quand on pourra y aller, on tombera sur le Club Med. C'est vrai que le Club Med est partout, et même au cinéma, avec les bronzés. Le film sort sur les écrans en 1978 pour le meilleur et pour le pire, question image, en tout cas. Au grand dam du patron Gilbert Trigano.
Vous avez donné à vos petits-enfants et à vos filles une éducation stricte, et pourtant vous vous êtes fait épingler par le film Les Bronzés. Quand vous l'avez vu, ce film, vous avez pensé quoi ?
Bon, d'abord, quand je l'ai vu, j'étais en pétard. Parce que il faut une certaine dose d'humour pour accepter la satire. Probablement, ce n'est pas ma qualité dominante. Puis avec le temps, ce film me fait rigoler parce que, au fond, il a quelque part donné une grande chance à ces jeunes gens qui sont devenus des amis. Et puis aussi, il a reconnu un fait de société pour le club. Alors, c'est pas la vérité.
Mais les bronzés, ça a rendu service au club ou ça lui a coûté cher ?
Les bronzés, quand c'est sorti, ça a fait probablement un mouvement de recul chez un certain nombre de femmes et d'hommes qui allaient venir au club, qui ont dit « je veux pas qu'on me considère comme ça ». Et puis, assez vite, ils se sont rendus compte que si on en parlait comme ça, c'est qu'il y avait quelque chose de vrai quelque part. Alors ils sont venus. Et ils ont vu que les bronzés, c'était une satire et que c'était pas la vérité.
Les bronzés satirent à succès du club Méditerranée, satirent aussi la colère des dirigeants. Avec ce film, la sexualité libérée, la beaufrie colle à la peau du club. Certains viennent pour ça d'ailleurs, d'autres au contraire craignent cette réputation. Après la sortie des bronzés, les réservations connaissent un recul très clair, bien que momentané. Et si le club Méditerranée n'était pas le paradis qu'il prétend être, après tout ? C'est la question qui commence à se poser dans les années 80. Les employés d'abord ou gentils organisateurs sont surexploités. Philippe Bourguignon, futur dirigeant du club, le dira lui-même. Le club a écrit les premières pages de son histoire dans des pays à coups de main-d'œuvre bas et avec les fameux géos à nationalités diverses dont le statut social était flou et la rémunération faible. La délocalisation avant l'heure. Par ailleurs, si le Club Med redynamise des territoires, comme en Tunisie, il crée aussi des bulles d'occidentalité et de richesse qui laissent de côté les populations locales. Écoutons cet extrait du fameux tribunal des flagrants délires sur France Inter. Gilbert Trigano se dépêtre comme il peut des accusations d'égoïsme que Claude Villers-Huassen.
Je crois tout de même que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est leur vrai...
Oui, oh, maître Rego.
Fallait pas mettre en route la machine. Hein.
Ah, mais enfin, voilà.
C'est leur vraie liberté qui est en cause. Alors ils font ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui sont très très inquiets de leur moi et qui s'occupent d'eux. Et seulement d'eux. Et c'est le bon moment qu'un jour ou trois semaines de vacances de s'occuper de soi. Puis il y a ceux qui s'occupent des autres et qui sont très préoccupés de l'environnement d'une manière générale. Et puis il y a, aux merveilles, la vraie femme et le vrai homme d'aujourd'hui qui est quelquefois égoïste et quelquefois curieux, dans le même personnage et dans la même journée. Mmh. Et la plupart de nos adhérents répondent à ce profil et je trouve, Monsieur le Président, qu'au moins eux, vous devriez les acquitter.
Ce n'est pas encore fait. Parce que si on commence à acquitter tout le monde, après nous, qu'est-ce qu'on devient, hein ? Bon.
Derrière l'humour, la vérité comme souvent. Certes, le Club Méditerranée propose des excursions à la découverte des cultures et des peuples d'ailleurs. Mais les riches vacanciers qui viennent au club, noyés par les offres de la société de consommation, se soucient-ils vraiment de ce qui se passe de l'autre côté du mur, derrière les fausses habitations traditionnelles ? Les séjours découvertes nourrissent-ils autre chose que le mythe du bon sauvage ? Et le club, qui se targue de démocratiser les vacances avec des séjours de plus en plus chers à l'autre bout du monde, est-il vraiment accessible à tous? Non, évidemment. Le club, la plus belle idée du bonheur, disait un slogan en 1976. Bien, mais à la fin des années 80, le bonheur n'a plus la même saveur. La bande de copains des débuts s'est embourgeoisée, les sportifs ne sont plus très aventuriers, et le ski nautique, oh, le ski nautique, les enfants en ont déjà fait l'an dernier. En 1992, un drame va achever de fragiliser l'entreprise. Un avion affrété par le club vers le Sénégal s'écrase dans le jardin d'un hôtel. 30 morts. Pour Gilbert Trigano, c'en est trop.
90-93, les années noires. Rachat de la compagnie aérienne Air Minerve, un gouffre. Résultat, 296 millions de déficit en 93. Cette fois-ci, Gilbert Trigano, le visionnaire, ne voit pas que l'époque change.
Ils n'ont pas vu les retournements, ils n'ont pas vu qu'ils étaient sortis du marché, ils n'ont pas vu qu'ils étaient trop chers. Et ils ont pris la vague de 91-92, le sida, la guerre du Golfe, et puis les changements de mentalité des Français qui sont mis à vouloir faire de bonnes affaires, y compris dans le domaine des vacances. Ils n'ont pas bien vu arriver ou ils n'ont pas tout à fait su s'adapter à ce moment-là.
Gilbert Trigano, le patron du club Méditerranée, remplacé par son fils, Serge. Le départ de ce patron vénéré par beaucoup signe la fin d'une époque mythique. Au club Méditerranée, quelque chose se brise. Car Gilbert Trigano, même à la tête d'une multinationale, était toujours resté proche de ceux qui faisaient son succès, les gentils organisateurs et les gentils membres. Une générosité qu'il a également appliquée hors de son travail, en s'engageant par exemple pour la formation des jeunes. Dans les années 80, il chapeaute notamment le plan informatique pour tous de Laurent Fabius, qui lui propose alors de devenir ministre de l'éducation. Avant lui, Jacques Chaban-Delmas avait voulu en faire son ministre du tourisme, mais sans succès. Non, dans les deux cas, Gilbert Trigano décline. Parce que sa femme ne veut pas qu'il se lance en politique. Après son fils, Serge Trigano, bientôt évincé par la famille Agnelli, actionnaire principal du club Méditerranée, c'est au tour de Philippe Bourguignon, ex-patron d'Euro Disney, de devenir PDG. Mais la société française a changé, la concurrence fait rage, et les gentils membres désertent les villages du club Méditerranée, désormais un peu vieillots. Les pertes s'accumulent, et il faut bientôt se faire une raison, la formule tout compris qui fit longtemps le succès du club, ne rapporte plus. Alors, elle est abandonnée. En 2002, Henri Giscard d'Estaing, le nouveau directeur, impulse un changement de stratégie. Oui, le tutoiement, les buffets à volonté, les karaokés, c'était bon pour le club Med à la papa. La nouvelle direction, à rebours de la tendance de l'époque, refuse le low cost. La manœuvre est inverse. Augmenter les prix, 3500 euros la semaine pour un séjour 5 étoiles, développer les villages haut de gamme et se tourner vers la clientèle internationale. La cible des 80 villages du club, aujourd'hui, les fortunes brésiliennes, russes et surtout asiatiques.
Le Club Med, les clients chinois adorent. Déjà deux villages de vacances ouverts en Chine, 5 prévus en 2015. La Chine va-t-elle changer le destin du club, fleuron du tourisme français? Un groupe chinois, Fosun, spécialisé dans la pharmacie et les assurances, veut augmenter sa part dans le capital de la société.
Si jamais les résultats ne sont pas au rendez-vous, les actionnaires chinois vont devenir un petit peu plus méchants. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans le monde des affaires, et donc ils seront plus agressifs et pourront décider de prendre le contrôle de la société Club Med.
L'actionnaire chinois entend poursuivre le virage engagé par le Club Med vers le luxe et le haut de gamme, pour séduire la riche clientèle asiatique et américaine.
En 2015, c'en est fini du club Med Bisounours et de la légèreté des débuts, l'abusement comme seule devise. Avec une offre à 939 millions d'euros, l'entreprise Fosun écrase les actionnaires italiens et devient majoritaire. Pour ses 65 ans, le club Med passe sous influence chinoise. Les nostalgiques ne s'y reconnaissent plus, mais ils doivent se faire une raison. Le club a vieilli, il a vendu son âme, il est devenu un marqueur de son époque, notre époque. Aujourd'hui, l'utopie imaginée par Gérard Blitz et Gilbert Trigano n'est plus. Mais a-t-elle vraiment existé? dès les débuts du Club Med, cette petite association qui entendait abolir les classes sociales accueillait plus de médecins que d'instituteurs, et encore moins d'ouvriers. Malgré tout, moqué ou méprisé, le club a fait rêver la France entière en imposant des fantasmes aujourd'hui répandus dans toute la société. Le sable blanc, les cocotiers, les bungalows à pilotis, avec leur village club, Gérard Blitz et Gilbert Trigano ont inventé une culture des vacances. Se reposer, s'amuser, nager, jouer, faire du sport et faire la fête sans prise de tête. Un phénomène de société, un modèle de vacances mille fois copié. Aujourd'hui, le Club Med, c'est une marque qui n'a de français que le nom, et c'est un emblème, celui d'une société de consommation à outrance dont l'objectif semble parfois sans limite. C'est plus, et c'est toujours plus.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'histoire du Club Med et d'une certaine idée des vacances avec notre invité, le sociologue Jean Viard. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche au CNRS, vous êtes spécialiste de cette thématique des vacances et sur ce sujet, vous avez écrit le livre que je tiens entre les mains et qui s'appelle Le triomphe d'une utopie. C'est assez joli d'ailleurs parce qu'effectivement, c'est un rêve qui a réussi. Est-ce qu'on peut considérer, ou est-ce que c'est pas trop simple de considérer que la notion de vacances, elle est forcément arrimée à la grande réforme de 1936 et du Front populaire? Où est-ce qu'il y avait cette idée avant ?
En fait, il y avait cette idée avant, et en plus, la France n'a pas inventé les congés payés. Donc, c'est compliqué, y compris parce que les congés payés n'étaient pas au programme de 36. Donc, vous voyez, le dossier est quand même compliqué. Ce qui est vrai, c'est que c'est dans l'entre-deux-guerres. On a mélangé, au fond, le temps des élites sociales qui ne travaillaient jamais, pour le dire comme ça, et le monde du travail. Y compris, d'ailleurs, les patrons. Mmh. Parce que vous regardez Proust, vous regardez cette époque-là, c'était les femmes qui allaient là, et puis c'était des professions de rentiers, en réalité. La classe rentière du 19e siècle était l'ancienne classe agricole, etc. Donc, au fond, c'est les rentiers qui ont inventé les vacances. Moi, je dis souvent, le premier club de vacances a été Versailles. Au fond, Versailles, c'est... parce que c'était un lieu où on allait justement pour ne pas travailler, c'est pour ne pas faire de politique. Et le roi vous amenait là pour vous empêcher de faire de la politique. Et donc, au fond, c'était un lieu où on dansait, on s'aimait, on se baignait, etc. Et au fond, c'est l'idée de se rassembler autour du plaisir de vivre, quoi. Et puis après, évidemment, on a coupé la tête du roi et Versailles est devenu mobile. Alors, on a d'abord créé Basse, Divonne-les-Bains, etc. Et puis, on a, dans l'entre-deux-guerres, si vous voulez, c'est la guerre de 14 qui nous a fait tout mélanger parce que tout le monde a été soldat. Et peut-être pas tout à fait dans les mêmes places, mais enfin quand même tout le monde. Et donc au fond, on est sorti de la guerre avec la même idée, s'il y avait des moments où on travaillait, des moments où on travaillait pas. Alors qu'avant, il y a des milieux qui ne travaillaient jamais,
et d'autres qui travaillaient toujours.
Quasiment tout le temps.
Bon, exactement.
Il faut se rappeler que 70% de la vie éveillée d'un ouvrier sous Napoléon était consacrée au travail. Nous, on en est à 12%, donc on voit les évolutions. Donc c'est ça l'enjeu. Alors, après, si vous voulez, les congés payés ont été pris d'abord par les nazis, ensuite par les communistes. C'est bien ça qu'il faut voir. Les congés payés ont d'abord été dans les pays totalitaires. Notamment, évidemment, Staline les a donnés. Mais à l'époque, c'était le bon travailleur avait droit au congé payé. C'est-à-dire, au fond, c'était un remerciement. Ouais. Les camps de vacances sur la mer Noire, on a connu ça, etc.
Sur le lac Balaton.
Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans le Club Med, c'est que justement, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est une idée d'aller en vacances pour se rencontrer. C'est pour ça que les séjours sont relativement longs.
Et ça renvoie, pardon de couper, mais ça renvoie à quelque chose d'intéressant, toutes ces images qu'on voit des pays communistes, de ce qu'on appelait l'Europe de l'Est à l'époque, et notamment le dénouement des corps en Allemagne de l'Est, où il y a comme ça une apologie des vacances, et on voit que le message, il est politique aussi,
oui,
à
mais
travers
bien,
les corps, il est politique.
Bien sûr, il est politique parce que c'est des corps sportifs, c'est des corps de travail,
c'est propagande aussi.
Je veux dire, c'est le bien.
Ouais.
La différence, c'est que le Club Med, c'est le plaisir. C'est quand même une énorme différence.
Bien sûr.
Et alors, en plus, il y a eu Weber, vous en avez parlé, qui était après, alors qui était porté plutôt par des mouvements plutôt catholiques, enfin pas uniquement, mais bon, c'était moi j'ai travaillé avec Edmond Maire quand il présidait le WWF, donc c'est quand même cette tradition sociale d'origine catholique, qui était plus là, je vais dire, sur le repos de l'ouvrier quand même, le repos de la famille, le repos de la famille populaire en fait, parce que c'était familial. Moi je me rappelle avoir WWF, on n'acceptait pas les femmes seules jusque dans les années 80. Mmh. C'était des familles, comprenez.
Ouais.
Le WWF, dans le Club Med, on faisait payer un peu plus cher aux dames seules. Et c'est normal, elles occupaient un lit à deux, elles étaient toutes seules. bon,
au départ, oui.
Enfin, en tout cas, au départ. Non, mais donc, si vous voulez, le Club Med a construit l'idée. C'est pour ça que les séjours étaient longs. Maintenant, on peut y aller trois jours.
Ouais.
À l'époque, ça aurait Blitz, il aurait sursauté, parce que pour lui, l'idée, et c'est pour ça que le lien qu'a fait Jean-Didier Urbain avec les camps de concentration est très important. Parce qu'au fond, ils avaient la mémoire du fait que dans les camps, ceux qui avaient survécu, c'est ceux qui étaient solidaires. On dit souvent que c'était pas les grands parce qu'ils avaient fallu trop qu'ils mangent, donc c'était plutôt les petits, et c'était plutôt les petits qui avaient le sens de la solidarité. D'ailleurs, souvent des anciens communistes ou des communistes qui étaient donc très solidaires. Et du coup, ils se sont dit, on peut faire la même chose, mais sur le bonheur. C'est-à-dire se mettre ensemble dans un lieu fermé, et au fond, ils se découvrir pour s'aimer, pour aimer la vie, plutôt que de faire évidemment ce qu'avaient fait les nazis, c'est-à-dire de détruire la vie. Donc, si vous voulez, tout ça a un certain sens, ça se construit dans ces époques-là, et donc effectivement, le Club Med va se bâtir là-dessus. Et c'est vrai que du coup, quand vous dites au début, faut bien reconnaître, c'était du matériel de récupération militaire boiteux,
ouais, mais c'était son charme aussi.
C'était pas l'enjeu.
J'imagine.
L'enjeu, c'était de se découvrir.
Ouais.
À l'époque, je dirais pas que c'était de s'aimer, mais enfin, dès le début, dans l'image du Club Med, il y a une certaine image érotique quand même. C'est pour ça, vous avez dit très justement que le SIDA leur a beaucoup coûté.
Mmh.
En tout cas, en termes de communication. Parce qu'à partir du moyen du SIDA, on ne pouvait plus communiquer sur l'hypothèse
sur
de l'aventure.
Plaisir,
c'était plus possible.
Évidemment.
Alors, il y a une chose qu'on dit rarement, moi qui m'avait frappé quand j'allais au Club Med, c'est à l'époque du Bourguignon, j'y allais comme conseiller, c'est que il y avait beaucoup de gens aussi qui venaient d'Afrique. C'est-à-dire notamment de Pieds-Noirs. Je dirais les Français qui avaient perdu l'Afrique allaient au Club Med parce que le Club Med, c'est quand même la France en Afrique. Il y avait ça, il y avait notamment des grands coloniaux, des gens qui avaient passé leur vie au Gabon, etc. Quand ils avaient des vacances, ils connaissaient plus personne en France. Et aller au Club Med, c'était être en France et en Afrique.
Oui,
donc, ils ont trouvé ces grandes tablées de juifs pieds-noirs, qui n'étaient pas du tout sur le modèle érotique qu'on entendait dans les pubs, mais qui avaient cette fraternité de la famille très accueillante, etc. Voilà. Donc, il y a tout ça.
Alors, l'avenir des vacances est rose si l'on considère qu'on est plus productif au travail quand on a pris de bonnes vacances. Pardon, c'est un peu basique, mais je crois que c'est important. Ça tient une place importante.
Oui, mais c'est-à-dire, si vous voulez, les vacances ont d'abord été un phénomène de découverte du monde. Première chose, c'est le voyage. On va voir la Grèce, on va voir Rome, ça c'est le 18e. Le 19e siècle, c'est la santé. Les eaux, prendre Basse, Divonne-les-Bains, etc. Donc ça c'est la deuxième. Et puis le nouveau siècle, le 20e siècle, ça va être d'abord le repos. Parce qu'on oublie que les corps étaient fatigués. On travaillait avec son corps, on piochait, etc. Et donc les vacances, c'était bien manger, bien dormir. Ça, c'est quand même ça au début, les vacances, si vous voulez. Mais... Alors, évidemment, le Club Med, c'était pas les mêmes populations. C'était des médecins, vous l'avez dit, des avocats, des gens comme ça. Donc leur problème n'était pas d'abord la fatigue, c'était de chercher autre chose. Aujourd'hui, on est dans autre chose au niveau des vacances, c'est qu'on est dans le déstressage. Et on peut se déstresser 4 jours à Dourdan. Et on revient, on est complètement déstressé. Donc on s'est rendu compte que le déstressage, ça peut être court et proche. Alors qu'à l'époque, l'idée d'aller à Dourdan dans les années 50, ça faisait vacances de paysans, vacances chez les parents.
On rappelle pour ceux qui ne vivent pas à Paris que c'est à 40 km au sud de Paris.
Oui, on y va en train, RER, je crois. C'est
péage d'autoroute quand on arrive du sud.
Voilà, enfin, mais les gîtes ruraux de Dourdan sont tout le temps pleins. Donc si vous voulez, c'est parce qu'on a compris ça, dépaysement et proximité. Bon, ça c'est la fonde. Mais la question centrale, si vous voulez, c'est il faut être schumpeterien, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où c'est le hors-travail qui construit le travail. Alors qu'avant c'était l'inverse. C'est-à-dire avant il y avait le travail qui occupait 70% de la vie éveillée. Et effectivement, et puis il restait un petit temps. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui on vit 700 000 heures. Quand le Club Med a été inventé, on vivait, disons, en entre-deux-guerres, on vivait à peu près 500 000 heures. Mais on dormait 200 000 heures, on travaillait 200 000 heures, un ouvrier au début du siècle.
Il restait peu pour le temps libre.
Il restait 100 000 heures pour apprendre, aimer, militer et mourir, comme on disait. C'était pas beaucoup. Nous, on travaille 70 000 heures, on fait 30 000 heures d'études, on dort toujours 200 000 heures, on dort 3 heures de moins par jour. Donc quand on a fini de dormir, de travailler, de faire nos études, on a consommé 300 000 heures. Il nous en reste 400 000. C'est ça la vraie question, si vous voulez. C'est que le monde, la vie a complètement changé.
Ça veut dire que le projet vacances devient un projet prégnant, c'est plus un projet annexe.
Mais oui, parce que le modèle des vacances, le modèle du congé, le modèle de la santé, de la sécurité sociale, font que la vie s'est allongée. Pourquoi la vie s'est allongée? La vie s'est allongée parce qu'on s'est mieux soigné, parce qu'on s'est mieux reposé, parce qu'on a plus été éduqué. Et on voit bien aujourd'hui, il y a des milieux qui arrêtent de fumer avant les autres. Parce que plus vous avez un niveau d'études élevé, plus il y a des pratiques sociales, on va vous dire non, ça c'est dangereux, et on va faire l'effort de s'arrêter. Je dis rien pour vous, mais je dis que c'est comme ça en général.
Parce que vous voyez mon électronique.
Oui.
Eh ben oui, monsieur, je l'ai fait. C'est voilà. Un combat honorable.
Voilà. Non, mais c'est un combat honorable. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que du coup, l'allongement de la vie a complètement changé les données. Mais l'allongement de la vie, c'est une conséquence. C'était pas le projet. Les gens sont pas partis en vacances pour plus longtemps, évidemment. Mais toute cette attention à la vie, toute cette attention à l'affection, à la culture. Et alors, si vous voulez, du coup, moi, je dis aujourd'hui, la ville, c'est quoi? La ville aujourd'hui, c'est Haussmann plus le Club Med plus Jack Lang. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est le vélo à Paris? Qu'est-ce que c'est les bords de Seine, les bords de Rhône, regardez Bordeaux, regardez le Vieux-Port à Marseille. Toutes les villes se littoralisent. Au fond, on a inventé le plaisir du corps dans l'eau avec les vacances et on est en train de le rapatrier dans la ville. Et aujourd'hui, nos villes sont des grands villages de vacances. 4 millions de gens vont à Paris-Plage alors qu'ils ne se baignent pas. Moi, quand je conseillais le Club Med, si j'avais dit ça, je disais, attends, on va faire un truc génial, on va acheter les bords de trucs, il m'aurait dit, non mais viens, attends, je vais conseiller, sérieux.
Allez sur les bords de la Garonne. Bordeaux, magnifiquement refait d'ailleurs.
C'est grandiose.
Et vous avez plein de gens qui viennent prendre
mais
l'eau.
Parce que la culture des vacances s'est saisie de la culture des loisirs et s'est saisie de la ville. En réalité, c'est ça qui se passe, si vous voulez. Et une ville qui n'a pas ces outils ne peut plus se développer. Prenez New York, prenez tout ça. Ce sont évidemment le Center Park, on a tous dans la tête, même si on n'est jamais allé à New York, on sait tous qu'il y a un Center Park au milieu. Voilà.
C'est un petit signe technique de.
Non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est ça qui est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vacances. Hein. Bien sûr qu'il y en a encore.
J'ai bien compris.
Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'en même temps, 50% des Français sont construits des maisons avec jardin. Un Français sur deux a un jardin. Et dans ce jardin, il a un point d'eau, il a un chien, il a un arbre. Et au fond,
donc il a son club à lui, ses vacances à lui.
Mais oui. Et un barbecue. Moi, j'ai souvent une simulation du barbecue. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? Vous arrivez avec une bouteille de rosé, 3 saucisses chez les copains et on fait barbecue le dimanche. Et on a un point d'eau pour tremper les gamins. Alors, ça, le plus riche aura une piscine. Il y a quand même 1 million de piscines, 1,2 million dans ce pays. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est vraiment une autre culture. Vous avez dit que le Club Med était créateur de culture. Je crois que c'est ça qu'il faut leur laisser, si vous voulez. Ils ont été créateurs de culture. Ils ont compris que l'hédonisme peut rendre plus intelligent. Ils ont compris que le voyage peut dynamiser la production et qu'il n'y a pas un affrontement entre les deux. C'est une synergie d'intelligence.
Alors, moi, je voudrais qu'on parle maintenant, puisqu'on a parlé de ceux qui partaient en vacances, de ceux qui ne partent pas en vacances, parce qu'ils ne peuvent pas partir en vacances, comme cette famille que vous allez entendre. C'est un reportage qui remonte, il est tout récent, il remonte à l'année 2013.
Habituellement, chaque été, cette famille du nord de la France part loin de la maison. Mais cette année, Valérie Klein et Tony Muchotte n'ont pas pu offrir de vacances à leurs 6 enfants. Budget trop serré.
Travaux dans la maison, permis des 2 plus grands... Donc cette année, c'est à la maison, tente, piscine, douche pour les petits, les grands s'occupent avec leurs copains.
Alors, il y a un effort collectif important à faire dans toute politique qui soit un peu humaine pour les gens qui ne partent pas en vacances. Est-ce que vous pensez qu'on a fait assez?
Non, je pense qu'on a fait énormément des années 50 aux années 80, avec le tourisme social, l'éducation populaire, avec
les clubs des Gros-Lagrange.
Oh, les Gros-Lagrange, enfin tout. Et puis, à un moment, d'abord, les gens sont sortis des structures. Vous voyez, les colonies de vacances, les gens ne veulent plus y aller. Et pourquoi ils ne veulent plus y aller? Parce qu'ils ne veulent pas se mélanger. Parce qu'ils n'ont pas plus envie, excusez-moi, d'être les gosses de l'immigration en vacances que ce qu'ils ont envie d'au lycée ou dans le quartier. Mmh. Et donc, une société qui se fragmente, il n'a plus les mêmes désirs. Mais il faut dire après une chose. Bon, qui ne part pas en vacances? Il y a quatre groupes, en fait. Il y en a pour des raisons financières. Il y a des gens qui ne partent pas. Les femmes seules partent très peu. Or, il y a 1 500 000 femmes seules avec des enfants. C'est quoi une femme seule sur une plage? Qu'est-ce qu'elle cherche? Ce que j'ai mis des guillemets à mon propos. Parce qu'elle sera tout le temps accostée. Donc, les vacances, c'est une activité de couple et sentimentale, et on pourrait presque dire en partie sexuelle. Donc, la femme seule n'a pas d'espace. La couleur. Sur les plages, il y a très peu de types de couleurs. Et quand il y a notamment un immigré du Maghreb, Tarius a fait un livre là-dessus merveilleux. Toutes les 2 minutes, il y a un jeune qui va lui demander « t'as pas du hache ». Il dit « c'est comme une pharmacie dans une rue ». C'est-à-dire que le mec, on croit que c'est un dealer, il est là à attendre. Non, il est venu se baigner. Et si c'est pour dire on a des codes là-dessus qui sont extrêmement importants, qui est effectivement la question de l'argent, mais la question de l'origine. Et il y a la question. Pour ça que, si vous voulez, je crois que la question des vacances, il faut la remettre dans l'actualité. Il y en a qui n'ont pas appris à partir. Notamment des jeunes. Pour ça, moi, je me pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas refaire ce qu'on a fait avant. Moi, je plaide pour la généralisation du voyage de tous les jeunes à 16 ans, 10 jours en France. Parce que d'abord, être français, c'est connaître la France. Qu'est-ce que c'est qu'un Français qui n'est jamais allé à Paris, qui n'a pas vu le Mont-Blanc, qui ne connaît pas la mer? Pour moi, il n'est pas français pareil. Moi, je connais, j'ai habité à Marseille longtemps, des gamins qui n'avaient jamais quitté Marseille. Donc, ils ne sont pas français comme... Donc, à un moment, il faut dire, le voyage, dans le monde moderne, c'est un des fondamentaux de l'éducation. Il n'y a pas que l'école. Il y a l'école, il y a le voyage, il y a le travail et il y a l'amour. Il y a 4 éducations fondamentales. Et il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Et donc, la question, c'est d'initier nos jeunes à cette nouvelle culture. Et c'est plus de refaire ce qu'on a fait avant, parce que les gens n'ont plus envie forcément de partir ensemble comme ils partaient ensemble.
Qu'est-ce que ça nous dit, le fait, je crois que c'est un fait avéré, que les Français partent, les Européens, je ne sais pas, mais les Français partent de moins en moins longtemps. Ils partent tout autant en vacances, mais sur des séjours plus courts. C'est juste une question économique?
Non, pas du tout. On va dire les choses simplement. Il y a 3 groupes. Il y a à peu près 25 à 30% de gens qui partent quasiment jamais. Il y a 16% des Français qui n'ont jamais découché. Dont une partie de personnes très âgées aussi. Il ne faut pas non plus. Il y a les malades. J'ai un pays où 90% des gens partiraient sur leur sommeil. Il y a toujours des malades, des femmes enceintes, on vient de s'acheter une maison, on a envie de la repeindre. Il y a des tas de raisons de ne pas y aller tous les ans. C'est pas non plus une obligation. Mais disons que nous, on est autour de 60%. Il y a 75% des gens qui partent 1 an sur 2. La vérité, c'est qu'il y a un groupe qui ne consomme pas, on va dire, ce dont on en a parlé tout à l'heure. Et c'est autant des questions de couleur, de pratiques individuelles. Pendant longtemps, les homosexuels étaient à l'écart. Maintenant, beaucoup, on les acceptait pas. Bon, on disait rien, on les prenait pas, quoi. Bon. Je pense qu'on a un peu évolué.
Oui.
Bon, un peu. Non, mais on a évolué. Oui, pour dire, il y a des groupes, il n'y a pas que l'économie, même si elle est centrale. Mais après, il y a un groupe qui part jamais. Il y a ce qu'on appelle les couches moyennes, c'est quoi? Leur but, c'est de partir 15 jours. Les mauvaises années, ils vont partir 10 jours. Et les très bonnes années, ils vont repartir en couple sans les enfants un week-end à contre-saison. Vous voyez? Et puis après, il y a les gens aisés, qui ont souvent des résidences secondaires, qui partent 5 à 6 fois par an. Et eux, leur but, c'est de faire des voyages pas chers, parce que pour se payer le suivant. Donc il y a ceux qui veulent le voyage pas cher parce que c'est le seul de l'année, ils n'ont pas de sous. Et puis ceux qui veulent en faire un de plus, et donc c'est eux que vous voyez d'ailleurs dans les low cost et tout, c'est pas qu'ils peuvent pas payer plus cher l'avion, c'est qu'ils veulent faire 5 ou 6 fois l'avion. Donc ils ont une logique de prix mais qui est liée à la répétition. Donc il y a une profonde inégalité. Et si vous voulez, le temps libre, vous savez, il est presque plus inégalitaire que le temps de travail. Parce qu'il y a très peu de politique publique. Chacun est renvoyé à son propre portefeuille.
C'est logique. Est-ce qu'on peut dire à un Français, dis-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Est-ce que la destination des vacances en dit beaucoup sur la personne?
Oui, parce que d'abord, on est d'une fidélité extraordinaire. 50% des gens se baigneront toute leur vie sur la même plage. On se baigne généralement, nos parents nous ont amené nous baigner. Y compris parce que pour les enfants, on a peur qu'ils se noient. Et une plage qu'on connaît, on sait à peu près comment la surveiller. Donc il y a tout ça qui joue. Et puis après, il y a des traditions culturelles. Par exemple, Nancy était française au 19e et pas Metz. Donc quand on a lancé la Côte d'Azur, qu'on a inventé le mot Côte d'Azur, qui n'existait pas, c'est les touristes qui ont inventé Côte d'Azur, Stéphane Léjart, les gens de Nancy allaient là, donc les pharmaciens, les docteurs, les gens de Metz non, ils étaient allemands. Et donc quand les Allemands, si j'ose dire, les gens de Metz sont devenus français, ils sont allés dans le Languedoc. Vous voyez, il y a des choses comme ça de très longue période. Donc le tourisme, d'une certaine façon, c'est pas des milliards de gens, c'est, faut dire un chiffre, il y a 60 millions...
On finira là-dessus parce qu'il ne reste plus que 10 secondes.
Il y a 60 millions de touristes internationaux quand on crée le Club Med. Il y en a 1,2 milliard aujourd'hui, de gens qui franchissent une frontière tous les ans. Et si je peux me permettre une petite chute, la France accueille 80 millions de touristes. C'est pour ça que les 200 000 immigrés, on ne les voit pas dans la masse.
Merci infiniment, Jean Viard, pour tous ces éclairages. Et je rappelle le titre de votre livre. S'il est aussi passionnant que ce que vous venez de nous dire, il faut vraiment se jeter dedans. Ça s'appelle, moi je l'ai lu, mais pour les gens qui chercheraient une lecture. De vacances, ça tombe bien, les vacances arrivent. Le triomphe d'une utopie, aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire du Club Méditerranée, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à toute l'équipe, puisque nous sommes jeudi, qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Jean Bulot, Margot Pinel et Jeanne Mayer. Attaché de production Valérie Priolet. Coordination Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation David Jacubovies. À la technique aujourd'hui, Jérémy Guillon.